Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mes lèzes tremblent, tremblent être noyés.
La rivière qui oublie sa source s'assèchera bientôt. Bienvenue dans cette nouvelle saison de la série La Clé des Champs. La série pour se nourrir de la magie du vivant, face à de climats de plus en plus extrêmes. De l'autre côté de la planète, ou à l'autre bout de la rue, l'humain observe et s'essaye à faire germer les graines. À chaque épisode, nous découvrons ensemble comment sont cultivées les terres de notre belle bleue. Aujourd'hui, nous nous aventurons aux portes du désert tchadien, pour y rencontrer ses habitants à pattes, à tiges et à jambes, avant de bifurquer dans les champs pour choper quelques trucs et astuces de culture sous ce climat. En bonus, à la fin de cet épisode, je vous propose une recette en sortie de champ, pour que nos papilles palpitent autant que nos oreilles. Tout n'est que sable et falaises rocheuses autour de nous. Seuls des petits bouquets de graminées parsèment un sol jaunâtre et poussiéreux. Non loin de là, un volcan éteint culmine à plus de 3400 mètres d'altitude. En quelques 4000 ans, le visage de cette région du nord du Tchad n'a pas changé. Arches, canyons, falaises et gorges semblent imperturbables. Pourtant, au détour d'un chemin, on peut encore tomber sur les restes d'un passage de chasseurs ou de pasteurs. Les quelques peintures ou bovidés gravés sur les rochers rappellent un temps où le climat du Sahara permettait la vie d'humains en petits groupes. Tiens, des êtres se faufilent à l'horizon. Un renard du désert peut-être, ou bien un troupeau de hyènes, de chacals, de fennecs, de lièvres du Cap ou de gaz. Il faut bien être conscient qu'au Tchad, ce qui semble être inhabité est bien souvent une vue de l'esprit. Le moindre point d'eau douce est une effervescence de vie où se retrouvent poissons, amphibiens et invertébrés. Les villages d'humains, comme celui de Waninyanga à Serir, aussi ont profité de ces quelques zones en eau pour installer la majorité des habitants de la région. Alimentés par des nappes d'eau, souterraines fossiles et s'étalant sur plusieurs hectares, ces lacs sont un gage de durabilité pour le pays, malgré parfois des sécheresses longues et intenses. À la surface de l'eau de certaines berges, des feuilles rougeâtres s'agglutinent et forment une dentelle d'écailles végétales. L'azol est cette plante aux allures de fougère dont la présence fascine. Direction désormais le parc de Zakouma, entre brousses et îlots arborés au sud-est du pays. De grands yeux noirs ébènes, une trompe et un rugissement uniques, les éléphants sont un des animaux phares de ce parc, au même titre que le lion, le buffle, l'hippopotame, l'impétueux rhinocéros, les girafes et antilopes, les léopards et guépards, ou encore les quelques dizaines d'espèces de serpents. Le climat du Tchad est généralement chaud et sec. La partie nord du pays est caractérisée par un climat désertique, des températures moyennes qui peuvent atteindre 29 degrés et des taux élevés d'évapotranspiration. Plus on se dirige vers le nord, plus les précipitations diminuent, ne dépassant parfois pas 10 mm par an. De mai à novembre, au sud du pays, c'est carrément un climat tropical avec 1000 mm d'eau par an. Le pays du Tchad est au carrefour de grands mouvements de population depuis 2003 qui se sont amplifiés. terre d'accueil pour des centaines de milliers de réfugiés soudanais qui vivent dans l'est du pays à cause de la guerre du Darfour, puis de la guerre entre milices au Soudan. Enfin, ce pays subit les conséquences de la deuxième guerre civile libyenne. Malgré tout cela, l'économie du Tchad est très dépendante de la production de matières premières, minérales et agricoles. Le pays est devenu exportateur de pétrole depuis 2003, alors que son économie reposait jusqu'alors principalement sur la production de coton, d'arachide, de gomme arabique et de bœuf. À noter que plus de 80% de la population tchadienne dépend de l'agriculture vivrière et de l'élevage, de subsistance pour vivre. L'épuisement des sols, le manque d'eau pour l'irrigation et, dans la zone sahélienne, les conflits entre éleveurs et agriculteurs limitent le développement agricole. Au centre du pays, pourtant, se creuse une nouvelle voie d'avenir agricole. Le lac Tchad est un laboratoire pour l'intensification de l'agriculture de décrue. Vu du ciel, ce lac se profile en de petites flaques, de plus en plus larges jusqu'à l'émergence d'une limite entre l'eau et la terre. Néanmoins, depuis quelques années, les effets du changement climatique ont conduit à accroître la superficie du lac. En effet, le réchauffement des océans provoque une plus grande évaporation ainsi qu'une plus grande pluviométrie dans cette région bien précise. Les habitants pratiquent des cultures maraîchères et fruitières, palmiers, dattes, essentiellement, au bord des lacs. Êtes-vous prêt pour notre truc et astuce de culture sous ce climat? Les variabilités du niveau du lac du Tchad et de ses ressources exigent des paysans de savoir anticiper le niveau de la crue. Sur les rives sud, les paysans suivent avec intérêt l'évolution du niveau du Chari N'Djamena. Dès le début de la saison des pluies, des personnes sont chargées de surveiller les points stratégiques de passage de l'eau dans le cadre d'une organisation collective de contrôle de la crue. À partir de ces informations, et grâce à leur expérience des crues passées, les paysans sont en mesure d'anticiper le niveau d'inondation dans les différentes unités topographiques, malgré des dénivelés invisibles à l'œil, non expérimentés. Ils en déduisent les possibilités de mise en valeur, ainsi que le travail à prévoir et à faire. Dans le delta de la Komadougou, Yobé, l'arrivée tardive de la crue du lac, plus de 4 mois après son arrivée sur les rives sud, permet aux paysans de multiplier les sources d'informations. Les marchés sont des lieux propices aux échanges et désormais les téléphones portables sont des outils précieux pour faire circuler également l'information. L'anticipation de ce niveau de crue est nécessaire à son contrôle dans le but de protéger les parcelles de maïs et d'augmenter les surfaces cultivables en décrue. En fonction de l'évolution des eaux au point stratégique, les paysans des rives sud choisissent l'endroit et le moment où sera construite la digue de protection des aires cultivées. Ces digues bloquent l'eau du lac jusqu'à la récolte du maïs, la date de destruction étant décidée conjointement avec un représentant des pêcheurs afin de ne pas les pénaliser. Les parcelles ainsi inondées pourront être remises en culture quelques semaines à quelques mois plus tard après la décrue. Les digues sont longues de plusieurs centaines de mètres à quelques kilomètres et peuvent protéger jusqu'à plusieurs milliers d'hectares. Sans intervention d'une autorité coutumière ou administrative, les paysans ont mis au point une organisation capable d'assurer le fonctionnement de la digue dans l'intérêt collectif, tout en laissant le choix aux paysans d'intégrer ou non les groupes de travail. Dans le delta de la Komadougou Yobé, les exploitants, en particulier les migrants exclus des meilleures terres, s'associent pour mettre en valeur les parcelles insuffisamment inondées, en aménageant collectivement un long canal. Les anciens chenaux du fleuve facilitent ce travail pour tirer l'eau sur plusieurs kilomètres et inonder plusieurs centaines d'hectares de terres lacustres qui n'auraient pas été atteintes par la crue cette année-là. Ces systèmes d'apport en eau qui associent dans le même cycle de culture pluie, décrue et irrigation permet aux paysans de valoriser au mieux les différentes parcelles et de s'affranchir en partie du niveau de la crue. Des systèmes de décrue artificielle sont aussi aménagés en tirant l'eau dans des canaux latéraux le long des parcelles. Les modalités de défriche sont multiples, à la houe, à la machette, par le feu, avec des herbicides avant, pendant ou après l'inondation. Elles font appel à la maîtrise des interactions entre le couvert herbacé et l'eau et ont but de favoriser la conservation de l'eau dans le sol. Le travail du sol est un travail superficiel, à la houe, qui accélère le ressuyage ou au contraire limite l'évaporation. Ces différentes techniques permettent aux plantes de réaliser tout leur cycle, autorisent la diversification sur une même parcelle, ainsi que l'augmentation des surfaces cultivables. Au Tchad, le français et l'arabe sont les deux langues qui prédominent, ou en tout cas sont les langues administratives, puisque plus de 200 ethnies sont représentées dans ce pays. Les instruments traditionnels mêlés à la modernité donnent parfois des assemblages intrigants. Je vous propose de tendre l'oreille à l'un d'entre eux.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et voici l'international Chalal et Maître Gazonga depuis Abidjan. Les amis, est-ce qu'on peut y aller?
Ouais.
Ok, d'accord.
Ah oui, bien sûr.
Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Je suis allé à Libreville, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui-Yé, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, souhaitent ma misère. Et voilà mon problème. Chez toi, de retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, me souhaitent la misère. Et voilà mon problème. Ah, écoutez ça.
Le gombo est un légume très apprécié pour les Tchadiens, Au sens botanique, c'est un fruit de la famille des Malvacées, famille de la mauve, sorte de haricot vert conique, au goût d'aubergine et dégageant un mucilage, idéal pour épaissir soupe et ragoût. En plein cœur de Djamena, dans presque tous les marchés et les petits marchés, les étals regorgent de gombo, ou d'araba, comme l'appellent affectueusement les Tchadiens. Ce nom est le nom du plat qui l'agrémente. Consommé régulièrement, le gombo contribue à une bonne digestion, aide à maintenir un taux de sucre sanguin stable et est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires et ses antioxydants. Le daraba que je vous propose de découvrir aujourd'hui est le ragoût traditionnel du pays, à base de gombo haché et de patates douces.
Voici le daraba pour 4 personnes. Réunissez les ingrédients suivants. 2 cuillères à soupe d'huile pour la cuisson, un gros oignon, une belle aubergine, 3 tomates, une belle patate douce, 20 okras ou gombo ou encore une courgette moyenne, 400 g de blettes ou d'épinards, une grosse cuillère à soupe de beurre de cacahuète, piment et sel à votre convenance. Passons à la préparation. Attrapez fermement un faitout pour y faire revenir dans un fond d'eau et à l'étuvée votre courgette et votre patate douce coupées en dés. C'est seulement lorsque celles-ci auront un peu molli que vous les sortirez du feu. Retirez l'eau et faites désormais chauffer avec grande attention l'huile avant d'y déposer votre oignon, finement ciselé. Sentez ces petits picotements dans vos narines et remettez l'aubergine avec cet oignon désormais vivement assoupli. Lentement, ces derniers pourront enfin se parer de cette dorure qui ravage les papilles. Écrasés, finement hachés ou déjà transformés en sauce gourmande, il est temps que les tomates rejoignent ce délice en devenir. Les plus vigoureux rajouteront une pointe de piment et de sel. Désormais, l'odeur délectable ondule autour de vous. Versez les gombos ou la courgette et ajoutez les blettes lavées et coupées en morceaux. Vous ne pourrez pas laisser ce plat risquer de s'assécher. Ainsi, vous recouvrirez d'eau ces légumes soyeux pour une cuisson d'au moins 30 minutes. Cette joyeuse compagnie colorée, une fois cuite, sera rejointe par le beurre de cacahuète mixé avec une tasse d'eau chaude. Patience, plus que 10 minutes de cuisson. Vous les avez bien vus se mélanger et à présent, c'est dans votre bouche que cette préparation chaleureuse pourra se nicher tendrement.
Ce détour dans le cœur pas si mort de l'Afrique prend fin. La semaine prochaine, le vivant réclame notre attention sur de nouvelles feuilles de chou fraîchement cueillies.
Des landes de palissandre, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.